Ben c'est justement là-dessus que je voulais intervenir, sur tous ces... Enfin, il y a plusieurs aspects qui vont revenir, que je vais essayer de reprendre. Donc c'est en effet un fragment, ça a été remarqué. C'est un des 17 fragments, là le côté liste peut-être effrayant, qui permettent de reconstituer le texte grec d'un décret qui a été voté en 260, enfin 286-285 avant notre ère, par la cité démocratique de Priène, en faveur du roi Lysimaque. J'entendrai après dans les détails plus particulièrement. Donc ce bloc et 13 autres fragments de la même inscription sont, comme vous l'avez remarqué, entreposés au British Museum, mais 3 autres fragments connus de ce texte sont eux conservés en Turquie, dans les dépôts de fouilles à proximité du site archéologique de Priène. Donc vous avez déjà des objets qui devraient, enfin qui font sens ensemble, mais qui sont éparpillés. Un peu pour l'historique, un petit peu de comment il est arrivé au British Museum, ce fragment. Donc en 1870, 14 fragments du décret de Priène entrent dans la collection du musée londonien à la suite d'un don qui a été fait par la Society of Dilettanti Charitable Trust. Cette société savante a été créée dans la première partie du XVIIIe siècle par des érudits londoniens qui s'intéressaient à l'Antiquité non plus uniquement par le prisme de la littérature, donc des textes type, je sais pas, Euripide, enfin les grandes pièces de théâtre par exemple, enfin tous ces aspects-là, mais qui désormais, et surtout avant tout, étaient intéressés, essayaient de comprendre cette antiquité par l'intermédiaire de l'objet. Donc ces dilettantes, ils vont parcourir la Méditerranée, vont identifier des sites archéologiques, et en 1868, la société londonienne va financer l'exploration de la cité de Priène, donc en Turquie actuelle, sous la direction d'un architecte qui s'appelle Richard Poulam, qui va publier les résultats de ses fouilles en 1881 dans une série qui est intitulée Antiquities of Ionia. Donc vous voyez bien dans le titre même de cette série que désormais c'est vraiment une focalisation sur l'objet archéologique, que ce soit les statues, que ce soit l'élévation des temples, que ce soit les inscriptions. Et de Priène, ce Richard Poulain va rapporter dans ses valises quelques beaux objets, dont certains sont liés à des personnages historiques célèbres, comme par exemple Alexandre le Grand, dont il a ramené une inscription où on voyait, enfin il pouvait lire le nom d'Alexandre le Grand, donc pour lui ça faisait sens de la ramener, c'est un objet précieux. Ou également comme cette pierre ici, que vous avez sous les yeux, qui cite Lysimaque. Alors Lysimaque vous dit peut-être plus rien du tout, mais Lysimaque c'était un compagnon d'Alexandre le Grand, qu'il a suivi dans ses pérégrinations et qui, à la suite, enfin à la mort à la mort d'Alexandre le Grand, a géré une partie de l'immense empire qui avait été d'Alexandre le Grand et qui, à un moment donné, en 305, avec toutes les autres gestionnaires de ce royaume, s'est dit bah, maintenant c'est à moi d'être roi et donc qui a créé sa propre royauté. Et donc ce Lysimaque a créé une royauté qui, notamment, à un moment donné, a englobé l'Asie mineure, donc la Turquie actuelle, dans laquelle vous aviez la cité de Priène. Et vous voyez sur cette photographie, pourquoi est-ce que cette inscription pouvait avoir de l'intérêt pour Poulam? Elle a une belle écriture, ça a été remarqué. Le nom de Lysimaque est très lisible. Alors, vous avez la fin du basileus, vous avez pour une personne entraînée à lire le grec, ce qui était certainement le cas de Poulam, et ben il voyait tout de suite le personnage historique qui était mentionné sur cette inscription. Et ça faisait référence justement à un type d'histoire, une histoire événementielle faite par les grands hommes. Donc ça permettait de rapprocher ce texte d'une histoire bien connue. Ces pièces donc archéologiques qui sont déplacées en Europe sont souvent intégrées dans des cabinets, par exemple de curiosités, de riches particuliers. Et parfois, comme c'est le cas ici, pour le décret qui m'intéresse, elles entrent directement dans des collections muséales. Donc, le matériel sur lequel je travaille a donc déjà une histoire d'appropriation scientifique qui remonte justement, pour notre exemple, au XIXe siècle. Une histoire qui est souvent héritière de problématiques de colonisation, une histoire miroir de rapports sociaux souvent inégaux. Et lorsque le matériel a été prélevé par à Prienne par Richard Poulain en 1868, les questions de l'appropriation patrimoniale ou de la spoliation culturelle n'étaient pas d'actualité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc comment, la question, c'est comment est-ce que j'interagis, moi, éthiquement, avec ce matériel à la stratification historique qui est composite. Et mon premier réflexe est de reconstituer virtuellement l'entier du texte fragmentaire. Donc je vous disais qu'il était, ce texte était sur 17 différents. Et mon deuxième réflexe va être, quand c'est possible, de lier ces fragments à leur contexte archéologique. Donc essayer de comprendre justement les questions qui étaient posées, comment ils fonctionnent dans un contexte. En d'autres termes, donc, j'essaye vraiment de réimplanter ma documentation dans un contexte de production, bien qu'elle en ait été extraite il y a plusieurs siècles. Enfin, je ne cherche pas à saisir l'objet uniquement en tant que réalité esthétique ou que collection de noms prestigieux, ce qui a permis à cette pièce d'être conservée et d'arriver au British Museum, mais plutôt de le voir comme le témoin de rapports sociaux vieux de près de 2500 ans, comme le témoin de médiation entre différentes typologies de pouvoir. Donc peut-être que dans une perspective de réparation, je cherche un peu à estomper cette conception de l'objet que l'on souhaite posséder pour sa beauté ou pour ce qu'il nous évoque, afin de rendre cet objet à son terroir, non pas matériellement, ça je ne peux pas, c'est des questions plutôt politiques là, qui sont en jeu, mais j'essaie de rendre cet objet à son terroir en tant que support d'un discours qui participe à construire un patrimoine historique de la Méditerranée. Donc après avoir précisé un peu cette couche moderne de l'objet, je vous propose maintenant d'aller regarder dans cette couche antique, et de comprendre comment fonctionnait cet objet dans l'Antiquité. Donc ce bloc inscrit est l'un des moellons qui constituait le pilier de l'entrée nord-est du temple de la divinité tutélaire de la cité de Prienne, qui est Athéna. Le décret, qui était adressé par les citoyens de Prienne au roi Lysimaque, recouvrait 8 blocs du pilier de l'entrée du temple, et sa première ligne était gravée à 9,50 m du sol, avec une écriture de 2,5 cm. Donc c'est la preuve, s'il en est, que ce texte n'était pas fait pour être lu, mais était gravé sur les murs du temple pour être protégé par Athéna, pour que l'efficacité des décisions prises par l'Assemblée et le Conseil de Prienne perdure dans le temps. Donc en inscrivant ce texte sur le temple principal de la cité, les Priénéens cherchent à faire persister non pas le texte en lui-même, mais la relation qu'ils entretiennent avec le roi. Une relation dont ils figent l'instantanéité pour en faire un modèle d'interaction, dont l'objet que vous avez sous les yeux n'a pas du tout n'a pas vraiment de valeur en lui-même pour les Priénéens. Donc il n'a pas du tout non plus la valeur que lui prêtait, que voyait en lui Richard Poulain lorsqu'il l'a prélevé, il l'a extrait en fait de son contexte. Donc cet objet, pour lui redonner son sens ou sa valeur, doit donc être inséré dans un réseau qui mobilise un système architectural, culturel, politique, un système de croyances et de relations de pouvoir qui lui est contemporain et voisin. Et c'est là tout mon travail justement d'historienne de l'Antiquité qui va être de comprendre l'objet et son fonctionnement dans son milieu. Cependant, peut-être, alors ça sera encore à discuter, mais peut-être je me suis posé la différence, quelle était la différence que j'avais en tant qu'historienne de l'Antiquité par rapport à des personnes qui travaillent sur une réalité contemporaine. Et je me suis dit que, en fait, on était confrontés tous au fait aux mêmes contingences de cet objet, mais peut-être qu'à la différence justement des personnes qui travaillent sur le monde contemporain, le monde que j'étudie n'existe plus. Et il n'existe plus que par l'intermédiaire de l'objet, au fait, ce monde. L'objet inscription, l'objet texte, l'objet temple, l'objet statue, l'objet monnaie, etc. Et je n'ai accès à l'acteur social que par le biais indirect, justement, de l'objet. Un objet que je n'ai la plupart du temps pas moi-même, et en plus de ça, extrait de son contexte, mais dont j'ai en quelque sorte hérité. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien, peut-être que ça change tout, et ça, je vous interroge, parce que je me suis dit que ma position était bien plus plaisante, peut-être, qu'un anthropologue. Je n'ai pas de contradicteur, si ce ne sont mes pairs qui vont interpréter diversement la mise en réseau de ces objets antiques. Je n'ai pas peut-être non plus de culpabilité, ça c'est à vous de... Enfin, je ne sais pas si vous sentez une culpabilité, peut-être, mais à l'égard de vivants, dont je prends dans un rapport peut-être dissymétrique en tant que chercheur, et justement, on l'a vu tout à l'heure avec la question des pêcheurs et du chercheur, de voir, enfin, j'ai pas cette culpabilité ou ce regard de prendre un objet du quotidien qui va devenir mon objet d'étude. D'ailleurs, je me suis posé la question si je pouvais d'ailleurs m'approprier un objet, car cet objet, en fait, pour moi, il ne m'appartient pas vraiment. S'il appartient à quelqu'un, il faut vraiment trouver une personne à qui appartient cet objet, c'est à un musée, c'est peut-être à une nation, un collectionneur, etc. Donc la seule chose qui pour moi m'appartienne, c'est ma problématique, c'est ma question que je vais justement poser aux objets de l'Antiquité, que je dispose en Réjean pour faire justement les faire résonner, essayer de retrouver le contexte antique.